Vous écoutez France Culture. Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Science publique, Michel Albert Gonti.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Science publique. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur le site de Science publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. L'Internet des objets est-il compatible avec la vie privée ? Cette année, le nombre d'internautes sur la planète devrait atteindre les 3 milliards, soit plus de 40% des 7,2 milliards d'habitants prévus pour 2014. Ils forment un réseau mondial dans la mesure où ils sont tous interconnectés. N'importe quel internaute peut communiquer avec n'importe quel internaute. Mais un autre réseau mondial surpasse déjà Internet, celui des téléphones mobiles. Le nombre d'abonnements actifs à un service de téléphone mobile a atteint 6,8 milliards en 2013 et il devrait dépasser celui de la population mondiale en 2014. Si le nombre d'utilisateurs d'un téléphone mobile, lui, reste limité à 2,1 milliards en 2013, il affiche un taux de croissance annuel moyen de 40% entre 2007 et 2013. Alors imaginez qu'un grand nombre des objets qui nous entourent se transforment également en un réseau mondial. Un peu comme si votre voiture, votre réfrigérateur, votre cuisinière, votre lave-linge ou votre aspirateur disposaient également d'un abonnement à la téléphonie mobile. Et pourquoi pas mes habits, mes chaussures, mes médicaments et mon armoire à pharmacie, ma montre, mes bouteilles de vin et mon réveil matin, tant que vous y êtes, me lancerez-vous ? Eh bien, pourquoi pas ? Une telle mise en réseau des objets quotidiens ne relève pas du fantasme de quelques technos évangélistes en mal de science-fiction. Il se prépare depuis une dizaine d'années et fait déjà partie de notre environnement sans que souvent nous en prenions conscience. Dès 2006, le pass Navigo a fait partie de ces discrets pionniers. Depuis, le passeport électronique, le badge de paiement sur autoroute Liberté et même la plupart des cartes bancaires sont dotées d'une sorte d'abonnement à la téléphonie mobile des objets. Ils sont en effet équipés d'une puce qui communique par radio avec un réseau. Si les objets sont en mesure de communiquer sur Internet, quelles seront les conséquences pour les entreprises qui ont fabriqué ces objets et pour celles qui les vendent ? Que raconteront les objets communicants sur leurs propriétaires, c'est-à-dire chacun d'entre nous ? Les internautes humains risquent-ils de devenir les otages des objets qui les entourent et qui deviendront en quelque sorte autant de micro-caméras de surveillance ? Le téléphone mobile ne crée-t-il pas déjà sur un Internet des objets embryonnaires mais puissants ? Si l'Internet des objets est en mesure de grignoter peu à peu toute vie privée, une législation peut-elle limiter ses capacités d'espionnage de chacun de nos mouvements ? Pour répondre à ces questions plus ou moins futuristes, nous recevons aujourd'hui dans cette émission de Science publique enregistrée le 25 avril dans le studio 153 de la Maison de la Radio, Pierre-Jean Bengozi, qui est spécialiste de l'économie de l'Internet et membre du Collège de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, l'ARCEP, Fabrice Matatia, ingénieur et docteur en droit, auteur de « Traitement des données personnelles » et de « Loi et Internet », deux ouvrages parus chez Erol en 2013 et 2014. Pierre Métivier, délégué général du Forum des services mobiles sans contact, le SMSC, éditeur du blog intitulé « Avec ou sans contact » et membre du think tank européen « Internet of Things Council ». Et enfin Marie-Charlotte Roch-Bonnet, docteur en droit public, spécialisé en protection des données, expert nommé auprès de la Commission européenne et auteur de l'ouvrage « Le droit peut-il ignorer la révolution numérique ?» paru aux éditions Michalon en 2010. Et Marie-Charlotte Roch-Bonnet est également membre du club Ebios. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science publique sur franceculture.fr. Pierre-Jean Bengozi, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour bien comprendre ce dont nous parlons, il est nécessaire de commencer probablement cette émission en précisant ce qu'est ce concept, peut-être, peut-on le qualifier ainsi, d'Internet des objets. Quelle serait pour vous la définition qui reflète le mieux cette idée ?
Alors, c'est un peu difficile. Il y a un côté un peu running gag dans l'Internet des objets, puisqu'on en parlait il y a une dizaine d'années sous le terme d'Internet du futur, d'Internet des objets, d'objets connectés plus récemment. Et en fait, il n'y a pas de définition standard. Au-delà du fait que c'est des objets connectés, je pense que c'est peut-être le plus simple qui est le plus clair. Parce que, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, il y a plusieurs types de définitions. Hein. Ça peut être des objets connectés via les mobiles ou via les ondes radio. Ça peut être des objets connectés directement à travers du Bluetooth. Ça peut être des objets connectés éventuellement via des liaisons filaires ou des liaisons fixes, hein, comme des caméras de vidéosurveillance, par exemple. Donc on a tout un spectre de technologies qui, à la fois, empêche d'avoir une définition technique très spécifique, mais en même temps, on le verra tout à l'heure, sont à la base de tous les problèmes aujourd'hui de décollement de cet Internet des objets, des problèmes de standardisation, des problèmes d'interopérabilité et des problèmes de régulation.
Très bien, donc on va essayer de cerner effectivement ce concept. Marie-Charlotte Roquebonnet, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que juriste, quelle précision vous pouvez apporter à cette définition ?
Donc effectivement, sur la manière de cerner les dispositifs, on va dire, d'Internet des objets, c'est vrai qu'on peut partir d'un constat en fait, de quatre paramètres qui sont des capteurs, des microcontrôleurs, des standards de connexion et puis aussi la nécessité d'avoir des dispositifs de récupération d'énergie. Ça, c'est un petit peu la manière dont, j'allais dire tout à fait trivialement, on définirait l'Internet des objets. En termes juridiques, finalement, la traduction de ces systèmes, en fait, et des enjeux qu'ils représentent, elles passent par trois phases, en fait. La première, ce serait la collecte d'informations réelles qui vont être mutées en informations, en données numériques. La deuxième phase, ce sont donc les échanges d'informations qui doivent être interopérables et donc, effectivement, d'avoir cette possibilité d'échanger sur des formats compatibles. La troisième, c'est l'exploitation des données ainsi numérisées avec des dispositifs qu'on a tendance à appeler aujourd'hui le Big Data, qu'on a tendance aussi à appeler l'Internet des objets au sens large, parce que finalement, quand on parle des notions, tout se mélange parfois. Et finalement, en termes de confidentialité et de protection de la vie privée, les enjeux sont donc au niveau de l'information de la personne en phase de collecte, sont aussi sur la maîtrise et le contrôle qu'elle peut garder des données, puisqu'elles sont stockables. Et puis, effectivement, dans l'exploitation qui sera faite de ces données, comment sera garantie une anonymisation des données ou une confidentialité à bon escient, voilà, en termes juridiques.
Très bien, on va continuer ce premier tour de table. Fabrice Matatia, bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis La Rochelle, vous nous entendez ?
C'est parfaitement.
Parfait. Même question, vous avez rédigé donc un guide juridique sur le traitement des données personnelles. Qu'est-ce que vous ajouteriez pour compléter cette définition de l'Internet des objets ?
Alors justement, l'objectif de ce guide que j'ai rédigé, c'est de faire prendre conscience à tous les développeurs, techniciens, responsables informatiques qu'il y a un certain nombre de règles juridiques à respecter. Parce qu'en fait, si nativement, les juristes ne sont évidemment pas des spécialistes de la technique, et inversement, les techniciens ne sont pas des spécialistes du droit. Et il faut arriver à mettre les deux mondes en accord.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est le cas, ou cette prise de conscience du côté du monde des techniciens est en cours ou en progression ?
Depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression que les choses s'améliorent. Il y a 10 ans, il y avait vraiment une ignorance mutuelle, je pense. Et là, de plus en plus, on voit que ces questions intéressent les deux bords. Et de deux côtés, les gens commencent à chacun à découvrir l'autre aspect de la question.
Très bien, on reviendra évidemment en détail sur cette prise de conscience. Pierre Métivier, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez plutôt les industriels, justement, les applications sur le terrain de ces objets communicants. Comment vous qualifieriez, vous définiriez cette expression Internet des objets ?
Alors, Internet des objets, c'est même plutôt Internet des choses, pour être plus global, pour reprendre l'expression things, américaine, non, mais... things, parce qu'un champ va être connecté, un volcan va être connecté, une forêt va être connectée pour alerter en cas d'incendie, par exemple, de cette forêt. Donc, c'est un peu plus que les objets. Quatre grandes catégories dans l'Internet des objets, celle dont on vient de parler, qui est l'Internet des objets connectés, objets physiques de notre environnement, le pèse-personne, les objets qui sont très visibles dans la presse, Mais il y a aussi tout ce qui est machine to machine, le suivi, la traçabilité des objets, que ce soit dans l'industrie, dans le transport. Vous avez tout ce qui est smart cities, villes connectées, les voitures qui se parlent entre elles, la voiture qui va parler au feu rouge, qui va parler au trottoir, qui va trouver les places de parking. Tout ça, ce sont également des objets connectés. La maison connectée, les compteurs électriques et gaz de type Linky qui sont, ou Gaspar, qui sont clairement des objets connectés qui vont avoir beaucoup de choses.
Qui commencent à être installés.
Absolument. Et puis un dernier intérêt des objets, celui qui est plus sociétal, qu'on va retrouver dans l'agriculture, qu'on va retrouver dans l'écologie, autour de la santé, qui est un point important également et qui est même beaucoup plus mondial et qui a des impacts beaucoup plus importants sur la société.
Alors, ça montre l'ampleur en fait du phénomène dont on parle. Et cette ampleur a été visiblement perçue outre-Atlantique, puisque très récemment, le 27 mars, cinq géants de l'économie américaine se sont rapprochés et constitués un consortium baptisé Industrial Internet Consortium et qui comprend pas moins de AT&T, Cisco, General Electric, IBM et Intel, c'est-à-dire des énormes entreprises dans chacun de leurs domaines. Et ce rapprochement s'est fait sous la bénédiction du gouvernement américain qui voit dans cet Internet des objets un facteur de croissance. Donc, semble-t-il, l'analyse sur les perspectives économiques est très claire.
Absolument.
Pierre Métivier.
Alors, il y a toute une partie infrastructure à l'Internet des objets et ça correspond à l'alliance que vous venez de citer. Veut revenir à la conquête de l'Ouest et au Gold Rush. En 1848, on a trouvé de l'or en Californie et les gens qui ont fait de l'argent, ce n'est pas les gens qui ont trouvé de l'or, c'est les gens qui ont vendu les pelles, qui ont vendu les tentes et les blue jeans. Et c'est un petit peu ça, cette alliance. C'est les gens qui vont construire l'infrastructure qui va permettre de connecter ensuite tous ces objets.
Pierre-Jean Bengosi.
Oui, ce consortium, son objectif premier, c'est de favoriser la standardisation des démarches et des équipements sur l'Internet des objets. Donc c'est bien une illustration de cette nécessité de dépasser la très grande fragmentation des technologies aujourd'hui.
On est un peu dans la phase où, de ce qui s'est passé avec le téléphone mobile, où il y a eu aussi une phase de standardisation à un moment qui a permis un développement
mondial. Oui, tout à
mondial.
Fait. Encore que dans le téléphone mobile, on avait déjà des gammes de fréquences, a priori, qui ont permis à chacun des opérateurs et des équipementiers d'avancer sur des rails qui étaient déjà tracés. Ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui, puisqu'on a des technologies concurrentes à base de Wi-Fi, à base de 3G, de 2G, 3G, 4G, à base de courant porteur,
de RFID,
etc. Donc il y a un vrai besoin de standardiser pour qu'ensuite des équipementiers, des utilisateurs, etc., puissent se développer. Et la grande difficulté dans ce contexte-là, c'est que ce sera les acteurs économiques qui vont détenir et contrôler ces verrous techniques, verrous des standards, verrous des plateformes éventuellement d'interaction, verrous des plateformes d'information qui auront un poids très, 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 très important. Si on prend l'exemple de la voiture connectée demain, est-ce qu'elle sera contrôlée, entre guillemets, par les fabricants d'automobiles? Est-ce qu'elle sera contrôlée par les standards de communication, Android ou iOS par exemple? Est-ce qu'elle sera contrôlée par les fournisseurs de services qui pourront déployer des applications sur ces voitures? C'est tout l'enjeu de la standardisation aujourd'hui et du développement. Il va être aussi lié à qui sera le gagnant du jeu à l'arrivée.
Alors, qui dit standardisation dit peut-être justement la place possible ou l'interstice dans lequel le droit peut s'introduire, Marie-Charlotte Reconnet.
Alors, effectivement, ce que nous, on peut observer, c'est une manière, en fait, de voir que le business model n'est pas mûr sur l'Internet des objets, c'est de voir que nous sommes observateurs d'une situation qui résulte d'initiatives privées, notamment américaines. Donc, par exemple, pour rentrer dans des exemples un petit peu plus précis, nous avons effectivement donc les produits Apple qui sont sur un modèle de Bluetooth 4.0 ou LI, comme dirait anglais, qu'on appelle aussi le beacon, qui est un standard en fait qui n'a rien à voir avec la NFC, qu'on trouve sur d'autres applications, par exemple nos cartes bancaires qui sont expérimentées pour un paiement sans contact, c'est du NFC, j'allais dire presque classique. Et ce qui est intéressant au niveau juridique, c'est que malgré tout, on peut avoir des impacts divergents ou en tout cas distincts. Par exemple, sur la technologie qui a été retenue par Apple, on peut avoir un échange de données, mais ça présumera qu'il y a un acte actif de la personne concernée. concernés pour avoir l'échange qui s'opère. Donc en fait, en termes de protocole vie privée, c'est un petit peu plus intéressant. Donc on peut avoir sur les différents business models et les différentes approches des impacts juridiques qui sont distincts.
Alors là, on cite beaucoup d'acronymes. Effectivement, NFC et RFID, en gros, ça désigne des puces qui peuvent communiquer par radio. Les puces NFC sont plutôt dans les téléphones et les puces RFID peuvent être un peu partout. Dans tous les cas, c'est des puces qui, justement, ont cette capacité, par rapport à ce que vous disiez, Marie-Charlotte Roquebonnet, qui ont la capacité de communiquer parfois toute seule, sans que l'utilisateur, le propriétaire de l'objet en question, n'ait... aucune action à faire. Fabrice Matatia voulait intervenir.
Oui, donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, là on présupposait en fait que l'interopérabilité et la standardisation étaient des idéaux à atteindre en soi, ce qui d'un point de vue logique est parfaitement valable. Mais d'un point de vue des forces en présence, ils n'ont pas toujours intérêt à atteindre cette standardisation et cette interopérabilité. Ils peuvent avoir intérêt au contraire à conserver les données pour eux, à surtout pas les partager avec d'autres. Et quand je dis « ils », ça veut dire ceux qui vont collecter les données. Donc par exemple, pour prendre des exemples concrets, si on pense par exemple au compteur intelligent genre Linky, ça veut dire que le fournisseur d'électricité va avoir des informations sur la consommation du client, il n'a pas obligatoirement envie de la partager avec d'autres. Donc s'il ne veut pas la partager, il ne va pas la standardiser ou la rendre interopérable.
Ni même d'ailleurs avec le propriétaire du compteur, enfin l'utilisateur du compteur lui-même.
En effet, ça c'est la problématique de l'accès de la personne aux données qui la concernent.
Voilà, Pierre.
Donc on peut avoir ce même problème, par exemple, s'il y a une société dominante qui a son écosystème, ça peut être Google ou ça peut être aussi Apple, dans tout le monde Apple, il contrôle les données qu'il a recueillies et il veut bien éventuellement en donner quelques miettes ou en vendre quelques miettes à des partenaires, selon ses dispositions, selon ses bonnes volontés. Mais il ne va peut-être pas les rendre complètement interopérables et accessibles à d'autres.
Pierre Métivier.
L'Internet des objets, c'est très 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 vaste. Au niveau du console dont je parlais tout à l'heure, on a recensé 400 standards différents. On ne parle pas de normes, de standards différents, puisqu'on ne va pas connecter de la même façon la plante, le géranium dans sa plante, et puis la Google Car, ça sera forcément des technologies différentes. Pour reprendre ce que vient de dire Marie-Charlotte, on ne peut pas comparer BLE, NFC, c'est comme comparer un microscope et une paire de jumelles. Ça a des utilisations différentes et des utilités différentes au niveau des différents objets. Donc oui, il y aura beaucoup de technologies différentes et essayer de dire qu'il y aura une interopérabilité globale et puis on va pouvoir appliquer les mêmes règles à toutes ces technologies paraît un petit peu difficile, paraît difficilement réalisable.
Alors ça peut être un frein au développement ou un frein à l'exploitation et à la commercialisation de ces données. Si chacun, en gros, les garde par devers lui, ça sera difficile de se les communiquer, de se les échanger et de les vendre. Est-ce que c'est, à votre avis, un frein au développement de l'Internet des objets, Pierre-Jean Benghouzi?
C'est un frein en partie. Alors, bien entendu, on n'aura pas une interopérabilité complète, hein, et ce n'est pas souhaitable à la fois pour les raisons parce que les acteurs économiques le refuseront, et puis d'un point de vue éthique, ça peut aussi poser des problèmes d'avoir un acteur unique qui contrôle l'ensemble de certaines données. Les impacts économiques, ils sont d'autant plus difficiles et les perspectives d'interopérabilité sont d'autant plus difficiles à appréhender qu'en fait, on a trois grands types d'industries qui sont affectées par le développement et qui sont intéressées par le développement et la croissance de cet Internet des objets. C'est à la fois l'industrie des télécoms et des microélectroniques, tous les équipementiers, hein, pour lesquels les chiffres que vous avez donnés en introduction, hein, les dizaines de milliards d'objets connectés représentent un marché fantastique. Même si une puce RFID, c'est simplement quelques centimes, un objet connecté, ça doit être 1, 2, 3 euros selon les cas avec la batterie. Donc, mais c'est, avec des milliards, ça représente un marché extrêmement important. D'où pour ces équipementiers, l'intérêt d'avoir un marché qui est le plus simple possible. Mais on a en même temps des industries traditionnelles qui vont se développer et qui vont développer des nouveaux services sur la base de ces objets. On parlait tout à l'heure de la voiture, on pourrait parler de la télévision, on pourrait parler de l'agriculture. Donc c'est des industries traditionnelles qui vont pouvoir améliorer considérablement les services et la qualité de la relation avec le consommateur, etc. grâce à ces objets. Et puis la troisième, c'est toutes les industries classiques qui vont pouvoir améliorer simplement leur performance en gérant leur stock plus intelligemment, en gérant le recyclage des objets, etc. Donc ces trois secteurs ont des intérêts tout à fait différents en termes à la fois de standardisation ou pas, d'équipementier ou pas, etc. D'où la difficulté un peu de penser une démarche globale dans un stade de développement.
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui autour de la question « L'Internet des objets est-il compatible avec la vie privée ?» avec nos invités Pierre-Jean Benghozi, qui est spécialiste de l'économie de l'Internet et membre de l'ARCEP, Fabrice Matatia, qui est ingénieur et docteur en droit, Pierre Métivier, délégué général du Forum des services mobiles sans contact, et Marie-Charlotte Roquebonnet, docteur en droit public et expert nommé auprès de la Commission européenne, auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le droit peut-il ignorer la révolution numérique ?» Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, on entre dans le cœur du sujet qui est d'essayer de comprendre de quelle façon et avec quelle ampleur cet Internet des objets, dont on a bien compris que le contour est assez difficile à définir, mais dont le potentiel, à l'évidence, est considérable, comment cet Internet des objets peut affecter notre vie privée, et cela à tous les stades de la vie quotidienne, c'est-à-dire aussi bien chez nous qu'en transport, qu'au travail et que pendant les loisirs. Donc Marie-Charlotte Roquebonnet, comment vous définiriez à grands traits pour commencer cette problématique? En gros, répondre à la question que nous posons en titre de l'émission, est-ce que l'Internet des objets peut être compatible avec le maintien d'une vie privée?
Alors c'est très intéressant parce que justement le titre a retenu toute mon attention. J'ai bien saisi la nuance entre vie privée et protection des données, ce qui n'est pas la même chose. Dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, on a effectivement, article 7, article 8, une distinction entre la protection, enfin le respect de la vie privée, article 7, et la protection des données à caractère personnel, article 8. Vous voyez qu'on est sur un enjeu qui est un petit peu distinct. De ce fait, je trouve qu'il était quand même utile de préciser qu'on n'a pas l'ambition aujourd'hui d'encadrer la protection des données à caractère personnel, même si effectivement il y a un régulateur dédié, la CNIL, même si effectivement les principes sont applicables, c'est ce qu'on essaie de faire pour encadrer l'Internet des objets dans toutes les applications mises en œuvre, comme le fait de collecter loyalement des données à des fins spécifiques et déterminées, sur la base du consentement de la personne ou d'une disposition législative express, avec un droit d'accès et de rectification des données. Ça, ces principes, ils restent constants, qu'on parle de vie privée ou de protection des données. Ce qui, par contre, est assez intéressant, c'est de voir que on va avoir une approche qui est de pédagogie par rapport à l'utilisateur de l'objet connecté. Quand on parle de vie privée, respecte mon champ, mon intimité, c'est-à-dire ne pas réutiliser finalement les données à caractère personnel qui peuvent être collectées pour les réutiliser dans un cadre professionnel, dans un cadre public, dans un cadre qui peut dépasser la communauté d'intérêt d'un groupe de personnes. Et c'est ça finalement l'enjeu. Je me permettrai de le résumer en cinq points. En termes de vie privée, finalement, on a un premier enjeu qui est le sentiment d'intrusion dans la vie privée. Vous avez tous peut-être entendu ces réactions très vives en Californie face au Google Glass, en fait, qui sont utilisés, tout simplement parce que c'est pas vraiment différent de ce qu'on a déjà avec un smartphone. On peut enregistrer de la même manière avec certaines applications. On a une application qui se développe qui s'appelle Facial Network, qui en fait est une manière, grâce à la biométrie, de reconnecter les données d'une personne qu'on prend en photo et de voir ce qui en ligne est inscrit et est écrit sur cette personne. Donc vous voyez, l'Internet des objets, c'est pas vraiment nouveau. Les Google Glass ne changent pas la donne. Et pourtant, il y a une réaction extrêmement excessive. Donc le premier point, c'est le sentiment d'intrusion. Le deuxième point, c'est le fait qu'on a un enjeu vie privée, big data, j'allais dire, réutilisation de ces données pour le bien-être collectif, donc qui s'oppose à notre protection individuelle de notre sphère privée. Ensuite, effectivement, on a une évolution des objets qui comportent des capteurs d'informations à des capteurs d'informations qui seraient finalement intégrés dans les objets. Je résume, Fitbit, qui est un processus qui vous permet de mesurer le nombre de pas, les nombres de calories que vous dépensez dans une journée, eh bien, envisage de concurrencer Nike en étant intégré dans des chaussures. Donc, vous voyez, on a un objet qui était dédié à la mesure de nos données à caractère personnel, et finalement, il va s'insérer un petit peu discrètement dans un objet de la vie quotidienne. Ça, c'est un autre enjeu. Et puis, pour finir, la vie privée va être organisée sous tutelle de l'Internet des objets. Par exemple, avec Nest, qui est en fait un ensemble de thermostats qui peut faire varier en fait la mise en œuvre donc de ce dit thermostat en fonction des entrées-sorties, présence-absence des personnes. Bien, voyez que notre manière d'organiser notre vie privée avec d'autres applicatifs, hein, je cite celui-là pour exemple, va être dirigée un petit peu et inscrite sous tutelle des objets, ce qui pose certains problèmes.
Fabrice Matatia.
Oui, alors pour rebondir sur ce que dit Marie-Charlotte, en effet, il y a une différence entre la vie privée et la protection des données personnelles. D'ailleurs, en droit français, la vie privée, sa protection est déterminée par l'article 9 du Code civil qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée, point final. Tandis que la protection des données personnelles nécessite tout l'arsenal de la loi informatique et liberté qui fait des dizaines et des dizaines de pages. Et donc ça veut dire que dès qu'il y a une atteinte à la vie privée, vu que la loi est très courte et très concise, ce sera au juge de déterminer s'il y a atteinte ou pas. Et on voit que l'atteinte à la vie privée, de manière pratique, il va être différent. Vous avez un droit à une vie privée sentimentale, par exemple, différente selon que vous êtes président de la République ou ingénieur ou animateur de radio.
Ah bon, ça c'est écrit dans la loi
Non, mais justement, c'est le juge qui va déterminer si ce droit à la vie privée, qui n'est pas absolu, va se heurter à d'autres impératifs, qui peuvent être en l'occurrence l'information du public ou la mémoire historique. Alors, pour rebondir sur cet aspect, par contre, protection des données personnelles proprement dites, il faut savoir que le législateur européen en a fait un de ses chevaux de bataille et que là, il y a quelques semaines, le Parlement européen vient d'adopter un projet de règlement qui, s'il est promulgué, c'est-à-dire s'il trouve un accord avec la Commission européenne et avec les différents gouvernements européens, aura force de loi dans toute l'Europe, dans toute l'Union, immédiatement. Et ce règlement durcit beaucoup les règles de protection des données personnelles et notamment prévoit des sanctions extrêmement lourdes pour les entreprises qui ne respecteraient pas les règles et notamment les grands principes qui ont été cités précédemment. Ces sanctions pourraient monter jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les sanctions que peut prononcer la CNIL en France ne peuvent se monter qu'à 150 000 euros. C'est le montant de l'amende qui a été infligée à Google en janvier dernier. Et on voit évidemment que ça n'a rien de dissuasif. En revanche, si on se met à parler de 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, là, je pense qu'une discussion va pouvoir réellement s'engager sur le respect ou non des règles qui auront été définies par le législateur européen.
Marie-Charlotte Roquebonne.
Donc, pour rebondir sur les propos en fait, qui viennent d'être présentés, c'est vrai que le règlement qui a été adopté, donc voté hein, par le Parlement européen le 12 mars dernier, est très intéressant en ce sens qu'il responsabilise énormément ce que nous qualifions de responsable de traitement, c'est l'exploitant du dispositif, celui qui définit finalité et moyens, en ce sens que cette responsabilisation s'articulera sur l'obligation de démontrer, premièrement, la stricte nécessité de recourir à un dispositif, donc par exemple d'objets connectés, et deuxièmement, de démontrer la sécurisation des données, la sécurité des données. Il y a des documents tout à fait spécifiques qui sont déjà bien utilisés dans l'univers anglo-saxon, qui sont les fameuses PIA, Privacy Impact Assessment, ou analyse de risque, pour schématiser et résumer les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, l'Internet des objets, on a une perte un petit peu de la traçabilité de qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui est sous-traitant, responsable de traitement, qui va pouvoir être encadré de manière relativement responsable et efficace via ces nouveaux outils, puisqu'effectivement la dynamique va être de démontrer que l'on est diligent, que l'on met en œuvre tous les moyens pour sécuriser les données, leur confidentialité, mais aussi l'information des personnes concernées. Donc ça, c'est très intéressant.
Pierre-Jean Benguzzi.
Oui, il faut bien avoir en tête que la grandeur des enjeux et des risques associés à l'Internet des objets pour la vie privée tient au fait que autour de cette connexion, on a à la fois le couplage entre la connexion et la mobilité des objets et des personnes, un couplage entre la connexion et la géolocalisation, donc on peut identifier où sont les personnes, où sont les objets, un couplage avec les réseaux sociaux. Hein, on va échanger des photos ou voir des vidéos en direct, un couplage avec le cloud, avec le big data, des traitements d'informations extrêmement nombreuses, multipliées, voire un couplage avec les nanotechnologies, sur des nanoréseaux, des sources d'énergie, etc. Alors tout ça, ça crée les problèmes classiques qu'on a aujourd'hui sur Internet, les problèmes de confiance, Est-ce que quand je commande sur un site en ligne ou est-ce que j'interagis avec un objet ou une personne, c'est bien la bonne personne qui est en face? Des problèmes d'identité, est-ce que les traces qu'on va avoir sur une activité sont bien celles qu'on pense qu'elles sont? On a bien vu sur l'Adopi, l'implémentation de l'Adopi, la grande difficulté qu'il y a eu à démontrer que la personne qui téléchargeait, c'était bien celle qui était sur l'adresse IP, qui était repérée, etc. On a des problèmes de responsabilité de conflit d'algorithmique sur les voitures qui sont capables de se garer toutes seules. Si ma voiture, elle accroche l'aile arrière de la voiture de devant, qui est responsable? Est-ce que c'est moi qui est responsable en tant que propriétaire oui. Ou est-ce que c'est le fabricant de la voiture qui m'a livré une voiture qui a mal interagi avec le trottoir
fabricant du système qui n'est pas le fabricant de la voiture, qui est un troisième acteur.
Donc c'est toutes des questions qui impactent directement les individus par les conséquences, et on pourrait même en rajouter d'autres, alors qui sont plus compliquées, mais qui sont liées aux interfaces humaines. C'est-à-dire que quand on insère des puces sous la peau, ou quand on insère des dispositifs sur la peau qui vont permettre éventuellement de vérifier le taux de sucre ou de glucose si je suis diabétique ou d'autres mesures personnelles, ou jusqu'où peut-on aller dans cette intégration des objets sur l'humain. Il y a tout...
Alors ça, c'est ce qui avait fait il y a quelques années réagir très fortement certaines associations américaines lorsqu'on a implanté les premières puces sous la peau, d'ailleurs pour des raisons plus festives que celles que vous indiquez.
Tout le problème de la privacy, c'est toujours ça. C'est une forme d'arbitrage entre l'intérêt et le risque. Tous les jeunes de la boîte de nuit que vous évoquiez étaient très contents de pouvoir se mettre une puce parce qu'ils n'avaient pas à trimballer un poste, un portefeuille, etc. Et donc vous pouvez payer directement son verre au bar. Donc c'est une question qu'on peut multiplier. C'est pareil pour les applications gratuites telles que Google ou autres, hein, où j'accepte de la publicité, j'accepte d'être tracé parce que j'ai accès à un service, et donc il y a une forme d'échange qui est implicite.
Pierre Métivier.
Oui, alors cet exemple de la boîte de nuit, on y revient toujours, alors qu'il a été fait une seule fois en 2005, et que je rappelle qu'il y a des centaines de milliers de gens qui vivent grâce à des pacemakers dans leur corps depuis des années, et qu'on n'en parle pas. Donc c'est pas la technologie elle-même, le fait de mettre en corps, c'est ce qu'on en fait. La technologie n'est pas mauvaise ou bonne par définition. Ce stylo, il peut signer la déclaration des droits de l'homme ou la construction de Dachau. Ce n'est pas le stylo qui est en cause, c'est ce que les hommes en font.
Donc fonction d'un pacemaker n'est pas d'identifier l'endroit où se trouve la personne qui le porte.
Elle a d'autres fonctions, et on peut tracer également les pacemakers, et si on ne fait pas attention, on pourra également les commander. Pacemaker fait partie de cet ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ces puces, on revient souvent sur cet exemple pour donner une vision négative de ces puces, alors qu'elles ont des avantages et sur la vie humaine en général. Pour revenir en plus, alors moi je n'ai pas les connaissances juridiques que nos autres interlocuteurs, je suis plutôt un citoyen un peu informé. Effectivement, on a l'habitude de partager nos informations pour obtenir des produits en échange. Et Google Mail, c'est typique. Google, en général, hein, c'est parce qu'on donne nos informations plus ou moins consenties qu'on le fait. Donc, il faut que le citoyen soit clairement... on lui communique les informations, il soit au courant qu'en donnant ça, pour avoir ça, il faut qu'il donne ça. Hein, ça, c'est clair. Il faut cette notion d'opt-in, qui est très importante, et plutôt qu'on nous espionne. Et la plupart
donc,
des applications...
c'est un peu compliqué. Opt-in, ça veut dire que...
c'est décider d'être d'accord, on signe, on est clairement d'accord que contre ça, je vais obtenir ça. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on va télécharger une application, et puis on dit OK sur les CGU qu'on n'a pas eu, les conditions générales d'utilisation, et après, on autorise des tas de choses qui permettent des dérives dont on parle.
Marie-Charlotte Roquebonnet.
Oui, justement, c'est l'un des problèmes que l'on a, parce que face à l'opt-in, on a l'opt-out, c'est-à-dire être par défaut intégré dans une liste ou l'utilisation d'une application et pouvoir en sortir, faire l'opt-out. Ce qui est compliqué avec l'Internet des objets, c'est que justement, une personne qui va être utilisateur, qui va consciemment, de manière totalement informée, avoir acheté une application, que ce soit un Fitbit ou autre chose, va pouvoir impacter et enregistrer des informations relatives à des tiers, c'est-à-dire sa famille, ses des amis, des passants dans la rue, etc. Et de ce fait-là, on a quand même un enjeu, c'est-à-dire la notion d'utilisateur actif ou passif, on va le dire comme ça, de ces solutions, crée un enjeu par rapport à l'opt-in, l'opt-out. Un utilisateur conscient fait de l'opt-in, celui qui est à côté peut tout au plus faire de l'opt-out. Et c'est un enjeu réel qui rejoint l'enjeu de sécurité. Pour le petit mot quand même, Vinton Cerf, qui est à l'origine du TCP/IP, du protocole à l'origine d'Internet, a en début d'année interpellé tous les acteurs de l'Internet des objets en disant que l'enjeu essentiel, c'était la sécurisation des données et qu'il fallait qu'il y ait une prise de conscience de la manière dont on allait pouvoir garantir cette sécurité et que ce ne soit pas fait à l'insu des personnes. Donc vous voyez, dans les plus hauts lieux, on est quand même conscient de tous ces enjeux.
Fabrice Matatia.
En effet, ce problème de sécurité est essentiel. Et à vrai dire, les spécialistes de la sécurité, donc les informaticiens, s'arrachent plutôt les cheveux pour deux raisons. C'est que la sécurité, d'abord, est quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire qu'on peut, un jour J, faire quelque chose de sécurisé, mais ensuite, avec les techniques d'attaque aidant, peut-être que dans 6 mois, il ne sera plus sécurisé. Donc ça veut dire que tous ces dispositifs devraient non seulement être bien conçus dès l'origine, ce qui n'est déjà pas évident, mais en plus être maintenus et les logiciels devraient évoluer constamment. Et ça, c'est assez peu probable. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, il y a quelques semaines, Microsoft a arrêté le support de Windows XP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un ordinateur Windows XP dans le logiciel duquel on va trouver des failles ne sera plus corrigé par Microsoft. Alors, ça n'est pas grave, mais tous les spécialistes de la sécurité disent « Ah ben oui, mais ça veut dire que Windows XP, si vous continuez à l'utiliser, vous êtes beaucoup plus ouvert à des attaques venant de l'Internet. » Et du coup, avec l'Internet des objets, il peut y avoir des capteurs embarqués qui sont, par exemple, sous Windows XP. Est-ce qu'on va changer leur logiciel comme ça dans le corps de quelqu'un? Du coup, ça veut dire, d'une part, que les données qu'ils traitent sont de moins en moins protégées. Donc, des attaques ou des fuites de données sont de plus en plus possibles. Mais on peut aussi craindre, c'est peut-être un peu de la paranoïa, mais ça peut aussi arriver, on peut aussi craindre des détournements de ces objets dans des buts de nuisance ou dans des buts d'attaque quasiment terroristes. C'est-à-dire que si vous voulez faire du mal à quelqu'un qui a un pacemaker relié par radio et mal sécurisé, vous pouvez dérégler son pacemaker. Si vous voulez
C'est la porte qu'a ouverte tout à l'heure Pierre Métivier.
Voilà. Et donc il y a des risques qui sont de sécurité, mais qui dépassent là, la vie privée. C'est-à-dire que vous avez des risques de sécurité d'atteinte à la personne humaine ou de sécurité économique au niveau de l'État. Si on se met à dérégler des objets communicants, si vous déréglez les feux rouges qui règlent la circulation, vous pouvez déjà mettre la pagaille dans la ville, ça, c'est un moindre mal. Si vous déréglez ensuite les usines de traitement des eaux ou le transport d'électricité, vous coupez le courant sur une région, ça peut avoir des impacts beaucoup plus graves. Or, la sécurité aujourd'hui, c'est déjà une obligation. La loi aujourd'hui impose déjà aux fabricants, aux responsables de traitement de données personnelles, de sécuriser leurs données. S'ils ne le font pas, c'est passible de 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Alors, soit aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce sujet, à ma connaissance, soit ça veut dire que le monde est parfait jusqu'à aujourd'hui, soit ça veut dire que finalement, même la menace des 5 ans de prison ne fait peur à personne.
Pierre-Jean Bengozy.
Oui, alors, sans jouer le rôle du technophile de service aveugle, je pense que le risque dès qu'on aborde la question de la vie privée sous angle juridique, c'est de voir plutôt les risques sur la vie privée, les impacts négatifs, etc. Et je pense que c'est quand même important de rappeler qu'un des premiers impacts sur la vie privée, ça sera malgré tout une amélioration absolument considérable d'éléments de cette vie.
Les points sur la vie quotidienne, c'est tout différent de la vie privée.
Non, sur la vie quotidienne, mais même sur la vie privée. Toute la question de la télémédecine, du suivi des personnes fragiles, on parlait tout à l'heure des diabétiques ou des cardiaques ou des personnes âgées qui se trouvent seules, qui peuvent rester seules à domicile plutôt que d'être en maison de retraite. Toute la question de la réduction des émissions à effet de serre, du CO2, parce que avec des villes intelligentes et le contrôle des feux rouges, etc., on va pouvoir éventuellement limiter un certain nombre de circulations de véhicules. Toute la question de la sécurité personnelle des jeunes enfants, éventuellement, ou des personnes qui circulent, etc. Il y a parmi les directives européennes importantes, hein, il y a une recommandation qui s'appelle ICOL, hein, qui va être mise en place prochainement, qui dit que toute voiture qui est accidentée sur le territoire européen doit dans les 10 minutes pouvoir être dépannée, parce que grâce à la connexion du véhicule, on pourra identifier à la fois à quel endroit elle se situe, quel est le besoin éventuellement de si le conducteur a perdu connaissance, etc. Donc c'est toute une série de transformations qui vont très très directement impacter notre capacité de vivre dans une société, dans des territoires très vastes, en mobilité, etc. Je pense que c'est aussi ça qu'il est important de rappeler, à côté des risques effectivement qu'apportent ces objets. C'est pas simplement la brosse à dents connectée qui est importante, c'est tout ce qu'il y a derrière.
On a vu les applications qui avaient également un peu défrayé la chronique sur les bracelets utilisés dans les maternités pour prévenir le vol de bébés, Pierre Métivier.
Oui, un tout petit commentaire. On était dans un monde analogique, mais qui avait déjà un niveau de sécurité de vie privée. C'est-à-dire qu'il y avait des barrières, il y avait des murs, il y avait des gardiens. On est de plus en plus dématérialisé, on est de plus en plus numérique, mais les mêmes besoins vont rester là. Il n'y a pas si longtemps, il y a deux Boeing qui sont arrivés dans des tours. Ce n'était pas du tout le numérique qui a envoyé. C'était toujours des problèmes analogiques de sécurité. Peut-être qu'un jour, il y aura des moyens de le faire en numérique. Mais les protections, elles doivent être de la même façon dans l'analogique que dans le numérique, dans le physique, que dans ce monde dématérialisé qui l'est de plus en plus.
Vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui de la question « L'Internet des objets est-il compatible avec la vie privée ?» avec nos invités Pierre-Jean Benghozi, spécialiste de l'économie de l'Internet et membre de l'ARCEP, Fabrice Matatia, ingénieur et docteur en droit, Pierre Métivier, délégué général du Forum des services mobiles sans contact, et Marie-Charlotte Roquebonnet, docteur en droit public et expert nommé auprès de la Commission européenne. Marie-Charlotte Roquebonnet, justement, voulait intervenir.
Oui, en fait, tout à fait. C'est vrai que quand on parle de vie privée, Internet des objets, le souci qu'on peut avoir, c'est de ne pas être un frein à l'innovation, c'est-à-dire de dire toujours, bon, bah, écoutez, il faut qu'un cadre soit spécifique, avec des finalités spécifiques, qu'il n'y ait pas de réutilisation des données à l'insu de la personne, qu'il y ait une information appropriée, accessible, intelligible. Beaucoup de contraintes qui, lorsqu'on le voit, la démultiplication des objets connectés va s'opérer, ne sera pas tout à fait évidente à mettre en œuvre. Pour le résumer ainsi, si chacun des objets que nous avons, notre montre, lunettes, indicateurs de mouvement, voitures, etc., j'en passe, si tous ces objets sont connectés, on va pouvoir consentir expressément à chaque fois qu'on en utilise un. Donc en fait, ça c'est un enjeu qui est quand même assez important. Juridiquement, ça pose la question de est-ce que la base, le socle qui constituait en fait le cadre juridique européen et national, qui est le consentement de la personne, est toujours viable dans cet univers d'objets connectés. La réponse, a priori, elle est oui et non. Hein. Oui, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir le consentement ou l'information préalable de la personne. Non, parce que ce n'est pas possible de faire consentir tout le temps, chaque personne, pour chaque utilisation. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça pose la question, et je finirai par là, de l'alternative. C'est-à-dire que dans un monde où les objets seront connectés, est-ce qu'il y aura véritablement un dispositif alternatif qu'une personne pourra choisir si elle ne souhaite pas justement être connectée ou si elle ne souhaite pas que ces données soient enregistrées pour ensuite être réutilisées dans le big data? Ça, c'est une vraie question.
Alors, c'est intéressant parce que quand on parle d'accord de l'utilisateur, par exemple, et du fait qu'il donne une autorisation à l'utilisation de ces données, ça veut dire que pour que cette autorisation, cet avis soit éclairé, il faudrait qu'il connaisse les possibilités d'utilisation de ces données personnelles et à quoi elles peuvent servir à celui qui les demande ou à d'autres d'ailleurs, parce que ces données peuvent se retrouver ensuite utilisées par des tiers et des tiers et des tiers. Donc la portée de ces données personnelles est assez difficile à estimer. Fabrice Matatia, est-ce que ce n'est pas justement l'une des difficultés dans la gestion de ces données personnelles? Est-ce que la difficulté n'est pas aussi dans l'ignorance ou la difficulté pour l'utilisateur de savoir exactement comment ces données seront utilisées?
Oui, vous avez parfaitement raison. Et en fait, on touche là une très vieille question. En fait, le droit a saisi cette question, mais ce n'est même pas la révolution numérique, ça date en fait du droit romain. Déjà en droit romain, vous aviez un adage qui disait « Nemo videtur fraudare eos, quisquiunt et consentiunt ».
Si vous pouvez traduire, c'est...
Oui, bien sûr.
Pour quelques auditeurs qui n'auraient pas compris.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas frauder quelqu'un qui sait à quoi il s'engage et qui y consent expressément. Donc ça pose bien les deux termes que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être au courant de ce que vont devenir nos données, et ensuite, si on donne notre consentement, après, on ne peut plus venir se plaindre.
Est-ce que là, on n'est pas face à une impossibilité quasi physique, dans la mesure où les possibilités d'utilisation de ces données sont quasi infinies?
Bien sûr, puisqu'on ne sait même plus à l'avance à quoi vont servir les données qui sont recueillies. C'est toute la problématique du big data qui a été citée en début d'émission. Vos données sont recueillies et on ne sait pas pourquoi. Et un jour, on aura des idées d'application dessus, mais à l'avance, on ne peut pas le prévoir. Donc à l'avance, vos données, vous ne savez pas à quoi elles vont servir et qui va les traiter. Et du coup, le consentement éclairé devient impossible. C'est une notion qui est contradictoire avec l'état de la technologie.
Charles oui. Trocobonnet.
Pardon, pour rebondir, effectivement, et aller complètement dans ce sens, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à travers la capacité de calcul qui existe aujourd'hui, donc le fameux Big Data, on va pouvoir réutiliser les données collectées pour une finalité qui était identifiée au préalable, celle pour laquelle l'utilisateur avait consenti, et on va les réutiliser. Tout l'enjeu, encore une fois, c'est là où on a quand même une dichotomie très très sensible, très délicate à gérer entre sécurité et droit, c'est que cette réutilisation va être possible sans porter atteinte à la personne concernée dès lors qu'on aura une anonymisation des données et l'impossibilité, de manière irréversible, j'insiste, de revenir à l'identité de l'individu concerné. Donc si cette masse de données démultipliée, agrégée, peut servir à connaître les comportements, éviter des bouchons sur les autoroutes, éviter effectivement qu'il y ait une surconsommation énergétique, c'est très positif. Le risque, c'est qu'il y ait une réutilisation à l'insu de la personne de données mal anonymisées et donc qui redeviennent des données à caractère personnel.
Pierre-Jean Bengozy, quand on fait le tour un petit peu du panorama dans ce domaine, on a l'impression qu'on met les pieds dans quelque chose d'une complexité extraordinaire et qui possède une telle complexité qu'elle peut, cette complexité peut-être bloquer l'avancement de la technologie et son développement, parce que finalement, trop de problèmes sont soulevés, trop de questions et trop de difficultés aussi à répondre à ces questions apparaissent.
Oui, tout à fait. Je pense que je commençais tout à l'heure mon intervention en disant que finalement, Internet des objets, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Vous-même, vous étiez penché sur ce sujet-là il y a quelques temps. Mais probablement parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Enfin, c'est un phénomène bien connu des économistes. Hein. Tout le monde a intérêt, mais à l'instant T, tout le monde a intérêt à ne rien faire au contraire. Donc je pense que les consortiums tels que ceux que vous avez évoqués aux États-Unis, les démarches récentes de la communauté européenne ou dans les pays asiatiques, des consortiums de type analogue, peuvent probablement faire avancer les choses. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'importance de la standardisation ou d'un minimum de normalisation de trajectoires qui permettent en tout cas d'avancer sur... ça, c'est pour la partie technique. Il y a une autre partie qui interpelle aussi le régulateur, c'est toute la question des réseaux, à partir de quel réseau vont échanger ces objets. Est-ce que c'est du Wi-Fi, du Bluetooth, de la fibre, des réseaux mobiles, avec des questions qu'on n'a pas évoquées, mais qui sont aussi liées au fait que si on a des objets qui échangent partout, ça veut dire qu'on va avoir des ondes aussi qui vont se démultiplier, donc tout un problème aussi d'acceptation de ces objets-là. Je pense qu'en la matière, mais ça semble être un peu la démarche de la Commission européenne aujourd'hui, l'idée est plutôt d'aller vers une régulation à la main légère, comme on dit parfois, à savoir où il ne s'agira pas forcément d'avoir une réglementation très très stricte et très très carrée, parce que le système est tellement complexe qu'on ne peut pas véritablement anticiper, mais plutôt inciter à des recommandations, assister à de l'accompagnement de dispositifs, sachant qu'il faut concilier à la fois des questions de données personnelles, des questions de propriété intellectuelle sur les brevets, sur les droits, sur les techniques, des problèmes de concurrence, éviter des abus de position dominante sur des acteurs qui maîtriseraient les plateformes d'interconnexion, d'information, et puis des problèmes de sécurité. On l'a vu récemment, y compris à travers les lois en France. Donc c'est ça qui incite effectivement une régulation à la fois active, parce qu'il y a des questions qu'il faut anticiper, celles qui ont été évoquées tout à l'heure, mais en même temps suffisamment légère pour pas bloquer complètement.
Alors face à cette difficulté de standardisation générale, Pierre Métivier, peut-être que justement les choses qui existent, qui déjà fonctionnent, comme les puces dont... vous parlez beaucoup sur votre blog des puces NFC donc qui sont intégrées au téléphone mobile et qui permettent à ce téléphone, par exemple déjà dans certaines villes, de payer sans avoir recours à une carte bancaire ni à un lecteur de carte, mais simplement en approchant son téléphone de la borne qui est installée chez le commerçant. Et là, on entre dans quelque chose qui est peut-être moins complexe que ce que l'on a décrit jusque-là, mais qui existe.
Qui existe, qui fonctionne, qui part du même principe d'avoir effectivement de la communication entre son mobile et puis un terminal. Et ce n'est pas seulement le paiement, c'est le transport, c'est un certain nombre comme ça d'applications. C'est rentrer dans l'hôtel. Et c'est le point commun de tout ça, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'on a, on a des capteurs, on a des objets électroniques qui vont se parler entre eux. Et là, je pense que ce sera très difficile de standardiser. Et il y aura un grand nombre de standards, suivant si c'est une communication de 2 cm, 50 mètres, 20 km, voire satellite. Que les données, si c'est un capteur de température dans une forêt, c'est 3-4 octets. Par jour par rapport à de la vidéo en permanence où c'est des mégaoctets par seconde. Donc c'est des technologies, des réseaux différents. On ne pourra pas standardiser tout ça. Ça sera suivant les applications. C'est la difficulté. Mais ce qui est important, et ce qui a été dit plusieurs fois, c'est comment on va standardiser, protéger les données, l'anonymisation, le consentement. C'est moins un problème technologique qu'un problème de communication, faire comprendre aux personnes qu'est-ce que ça veut dire pour elles, comment on utilise ces services-là, quelles sont les précautions à prendre. Mais c'est vrai sur Internet par rapport à l'utilisation d'aller commander des produits sur Internet, sur un service web, c'est vrai sur ce qu'on met sur Facebook. C'est une extension liée aux objets de problèmes que nous avons tous déjà par rapport à l'Internet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, simplement on l'étend aux objets qui nous entourent.
Avec un potentiel de multiplication par un facteur quand même considérable. Le facteur dans ce cas-là est important, c'est-à-dire c'est pas multiplié par deux, c'est peut-être multiplié par beaucoup plus.
Mais on va résoudre les problèmes les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a le problème des cartes, le problème comment on sécurise l'information des cartes bancaires, et ça on sait très bien faire depuis 13 années, avec Neil Fuissard, et puis voilà. On passe à la montre connectée, il va falloir aussi être sûr que cette montre connectée respecte les règles en termes d'anonymisation, de données, pareil pour la balance, pour tous les produits. C'est un par un, c'est chaque objet les uns après les autres qu'il faut gérer.
En même temps, par rapport à ce qui existe justement et qui peut nous donner une idée de ce qui va se produire dans le futur, on se rend compte que chacune des premières applications de ces technologies a fait pas du tout place à de l'information auprès des consommateurs, que ce soit le pass Navigo et plus récemment la carte bancaire qui est équipée d'une puce sans que personne ne soit véritablement au courant et que d'ailleurs cette puce ne sert pour l'instant pas à grand chose puisqu'il y a assez peu de lieux dans lesquels on peut payer avec. Toujours est-il que ça se développe et que moi en tant que consommateur par exemple, je n'ai pas du tout été informé particulièrement de l'apparition de cette puce dans ma carte.
Oui, alors,
Pierre Métivier.
Alors, le groupement carte bancaire a fait 2 campagnes télévisées en début d'année.
J'ai dû y échapper.
À la télévision, c'est aussi un objet connecté.
En même temps, j'étais à ma banque, qui est censée être mon interlocuteur et non pas la télévision dans ce cas précis.
En février, il y a 1 million de cartes qui ont été connectées. Il y a eu 2 millions de transactions sans contact. Donc ça commence à rentrer, même si il y a environ 12% des magasins qui sont équipés. Donc ça vient, même si effectivement, ce n'est pas tous les magasins à Paris. Il y a des villes comme Strasbourg où c'est 40% des magasins qui acceptent et où ça se fait naturellement. Mais ça va venir, ça va venir.
Oui, Marie-Charlotte Roquebonnet.
Pour ajouter aux chiffres et puis un petit élément sur l'intervention de la CNIL, on a 26% des cartes bancaires qui aujourd'hui en France sont équipées par défaut de NFC, c'est-à-dire que par défaut on a activé cette communication. Donc c'est peut-être ça qui est un petit peu gênant.
C'est-à-dire, sans donc demander l'avis du porteur de la carte.
Voilà, tout à fait. Si ça n'était pas activé par défaut, ce serait une option comme d'autres.
Potentiellement utilisable dans l'avenir.
Oui. Et ce qui est intéressant, le seul point que je voulais mentionner, c'est qu'en 2012, donc l'expertise de la CNIL a identifié ce problème de communication d'un certain lot de données. Donc, parmi ces données, il y avait le nom, prénom de la personne concernée, le numéro de la carte, l'historique des derniers paiements qui étaient communiqués, et puis la date d'expiration. Et en fait, suite à des négociations, il s'est trouvé que les cartes émises depuis juillet 2013, donc pas celles que vous avez peut-être dans votre portefeuille, mais celles que vous auriez depuis 6 mois, 1 an, sont beaucoup plus privacy friendly, on va le dire comme ça, puisqu'il n'y a plus le nom et prénom de la personne, il n'y a plus le numéro de la carte, enfin pas en entier, et on accède finalement qu'à quelques données résiduelles, j'allais dire, même si elles sont toujours là.
Parce que par rapport au danger qu'on n'a peut-être pas assez évoqué, c'est le danger du piratage qui permettait avec ces cartes dont vous parlez, finalement d'obtenir sans contact, juste la proximité du porteur de la carte, toutes les informations nécessaires pour payer sur Internet.
Alors ça, c'est une légende urbaine, c'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'il y a Akito Ergo Sum, qui est le salon des hackers, et j'adore les hackers, qui a lieu actuellement, et c'est pas du tout au sujet, c'est pas du tout au programme de cette année, on parle pas du tout de ça. C'est-à-dire que dans un laboratoire, oui, même moi je peux lire les fameux numéros et ils ont été effectivement effacés pour la plupart des autres. Dans le métro, à une distance, ça on se fait plaisir en disant ça, mais ça n'existe pas. Je ne connais personne qui l'a réalisé.
Oui, Charlotte Rambolet, pour reprendre des notions qui sont chères...
Quelques mots pour clore.
Oui, qui sont chères aux experts de sécurité. C'est vrai qu'en termes de vraisemblance et de gravité des risques, en termes de vraisemblance, vous avez raison, il y en a assez peu.
Voilà, il y en a assez peu, mais l'imagination étant au pouvoir, on peut tout envisager pour l'avenir. Et l'avenir nous dira ce qui se réalise vraiment. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Pierre-Jean Bengozi, Fabrice Matatia, Pierre Mitivier et Marie-Charlotte Roquebonnet d'y avoir participé. Vous pouvez approfondir notre sujet d'aujourd'hui en lisant les ouvrages écrits par nos invités, parmi lesquels « Le droit peut-il ignorer la révolution numérique » de Marie-Charlotte Roquebonnet aux éditions Michalon, paru en 2010. « Traitement des données personnelles » et également « Loi et Internet » qui ont été écrits par Fabrice Matatia et qui sont parus chez Erol en 2013 et 2014. Voilà, et sur notre site, vous trouverez donc les références de ces ouvrages et vous pouvez y réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. Sciences Publiques, Dany Journaud, Clément Daté, Benoît Tarot pour France Bleu La Rochelle, que nous remercions pour le duplex, Marie Dalquier, Michel Albergantin. Nous vous laissons en compagnie d'Augustin Trapenard pour le Carnet du Libraire. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture et à la semaine prochaine.